Vous êtes sur RTL.
C'est le titre de l'actualité à la une ce matin encore. C'est un jour de deuil national en Russie. Hommage aux 133 morts dans l'attaque du Crocus City Hall, cette salle de concert de la banlieue de Moscou. Attentat revendiqué par Daesh, ce qui serait donc son attaque la plus meurtrière sur le sol européen. Et nous recevons Galia Ackermann pour tenter de comprendre ce qui se joue actuellement en Russie. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes historienne, fine connaisseuse de la Russie. Plus tôt dans la matinale, nous recevions Myriam Benrad, spécialiste du groupe État islamique. Elle nous le disait, la revendication de Daesh, elle est crédible. Pourtant, Vladimir Poutine ignore superbement cette revendication, ce message. Qu'est-ce qu'il fait là? Il crée un narratif, un récit, un scénario comme l'Ukraine l'a prétendu?
Je crois que c'est assez simple. Si c'est vraiment Daesh, et il y a quand même certains doutes parce que la revendication a été faite par une chaîne Telegram dont on n'a pas encore réussi à connaître vraiment l'identité du propriétaire. Et il y a aussi des doutes sur la capacité de cette branche afghane de Daesh d'organiser un attentat quand même absolument énorme à Moscou, mais même à supposer que ce soit Daesh. Qu'est-ce que peut Vladimir Poutine faire contre Daesh? Pas grand-chose. En Afghanistan, il ne va pas envoyer des avions bombarder l'Afghanistan. Il peut tout au plus chasser les gens affiliés à Daesh de près ou de loin qui se trouveraient sur le territoire de la Fédération
dans le Caucase, notamment.
Rien de spectaculaire. Alors que le récit ukrainien, et d'ailleurs les indications ont été données, c'est confirmé par l'administration présidentielle à tous les médias sous contrôle du Kremlin, qu'il faut appuyer l'hypothèse ukrainienne.
Parce c'est ça, que on là, est d'accord. Là, pour l'instant, Vladimir Poutine et toute l'administration russe, comme vous venez de le dire, poussent pour la thèse d'une attaque, en tout cas en lien avec l'Ukraine. Mais alors, c'est quoi le but de la manœuvre pour Vladimir Poutine?
Le but, d'abord, c'est une réponse spectaculaire, un attentat spectaculaire, mais je pense que cela va au-delà du but, parce que je crois même qu'il y a eu peut-être une complicité des services secrets russes. L'énorme salle de concert, qui fait partie d'un gigantesque complexe qui s'appelle Expo Crocus, n'a pas été gardé. J'ai lu l'entretien avec le propriétaire de ce complexe qui dit qu'en fait les vigiles n'étaient pas armés, que c'était plutôt des contrôleurs qui regardaient un peu les gens passer, rien de plus. Dans une ville entièrement sous contrôle policier, vous avez vu la quantité de policiers à l'enterrement de Navalny.
Pardonnez-moi, Galia Ackermann, mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, de sous-entendre, c'est que cette attaque, elle aurait pu être, en tout cas, il y aurait pu y avoir le fait que les terroristes auraient pu être laissés libres par l'administration russe.
Oui, c'est déjà arrivé dans le passé, notamment cet attentat, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2002, un méga attentat contre une autre salle de spectacle.
Bien sûr, ouais.
À Dubrovka, à Moscou, où on a appris après, il y avait un gars infiltré du FSB qui est sorti juste avant l'assaut final des services de sécurité et qui s'en vantait même plus tard.
Bon, et c'est à cette époque que Vladimir Poutine a pu réellement asseoir son pouvoir sur la Russie.
Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, je pense qu'en quelque sorte les autorités russes cherchent actuellement un prétexte pour une nouvelle phase de la guerre contre l'Ukraine. Monsieur Shoigu, le ministre de la Défense, avant même cet acte terroriste, a déjà annoncé la création de deux nouvelles armées de 150 000 hommes chacune, c'est-à-dire 300 000, pour lesquels apparemment il y aurait une mobilisation. Les appels au bureau de recrutement par la voie électronique se sont multipliés ces derniers jours. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, parle maintenant ouvertement de la guerre. Nous sommes en guerre, dit-il, et pas opération spéciale. Et les autorités russes pointent vers l'Ukraine. Il y a quand même pas mal de coïncidences. Moi, encore une fois, ce qui me rend perplexe, extrêmement perplexe, c'est qu'une salle avec un concert pour 6200 personnes n'était absolument pas gardée. On voit sur les premiers vidéos que l'énorme place devant l'entrée principale était totalement déserte. Les terroristes parcourent 200 mètres, personne ne les arrête. Ils repartent, ça c'est encore plus incroyable. Les unités spéciales arrivent sur place pratiquement une heure après le début de la fusillade. Les portiques détecteurs de métaux, ce jour-là, comme par hasard, ne fonctionnent pas. Alors que les autorités russes ont été prévenues par les Américains et par 6 autres pays de l'imminence d'attaques terroristes.
Ouais, et des alertes qui ont été visiblement complètement ignorées par le Kremlin, par le pouvoir russe. Galia Ackermann, j'aimerais juste qu'on revienne, parce que évidemment on va rester très prudent quand même sur ce qu'on sait de cette terrible attaque qui endeuille la Russie aujourd'hui. Je voulais qu'on revienne. Est-ce que là, selon vous, il faut craindre une intensification de la guerre en Ukraine? Ça peut passer par quoi? Vous le disiez, des soldats mobilisés. Est-ce qu'il faut craindre, je ne sais pas moi, des frappes encore plus massives sur l'Ukraine?
Je pense que c'est tout à fait possible, parce que pour Poutine, d'une part, il faut montrer qu'il est fort, il faut se venger en quelque sorte. Parce que cet attentat, c'est vraiment un méga attentat absolument horrible. Et d'autre part, peut-être, ça lui donne un prétexte en plus d'intensifier la guerre contre l'Ukraine. Vous savez, il y a quelque temps avant l'élection, à la fin de l'année 2023, les hackers ukrainiens ont pu s'emparer d'un certain nombre de documents émanant de l'administration présidentielle, où il y a une sorte de programme, qu'est-ce qui va se passer après la réélection de Poutine. Et donc dans ce programme, d'une part, on prône un renforcement de contrôle de la population, renforcement de la censure sur Internet, censure dans les médias, censure même dans tout le domaine.
Et il faut donc s'attendre à une intensification de la guerre en Ukraine, c'est ce que vous nous dites.
Voilà,
ce matin.
Mais sur le plan extérieur, ce que disent ces documents, c'est un document émanant du président de la Douma, monsieur Volodine, adressé à Poutine, et il y a la signature, il y a une copie manuscrite de ce document, il y a une signature de Poutine. D'accord. Et donc, d'accord, c'est quoi? C'est que il faut obtenir la victoire complète en Ukraine, mais qui ne sera que première étape pour élargir les opérations contre l'ensemble de l'Occident.
On ne dit merci pas Galia Ackermann. Je suis désolé, il va falloir qu'on arrête notre entretien ici. Merci, vous, la spécialiste de la Russie. Merci de nous avoir éclairés.